Bonjour, ici Radio Grand Ciel, antenne de Châteaudun. Aujourd'hui, dans le cadre des émissions Histoire et Mémoire, Jean-Claude va nous parler du vécu des Juifs en Pays du Noir entre 1940 et 1944. Particulièrement des enfants, et combien leur vie était alors difficile.
Bonjour. Oui, parler de ces enfants, c'est citer, d'entrée, Georges Bernanos. Les martyrs sont allés jusqu'au bout de la souffrance, nous leur devons d'aller jusqu'au bout de la vérité. Nous avons eu en Pays du Noir plusieurs familles de confession juive qui sont venues se cacher. Mais certaines familles avaient une honorabilité tout à fait reconnue dans le pays du Noir. En 1931, nous avions le docteur Vesbuche qui est arrivé à Arroux. Ce docteur venait pallier le manque de médecins en France en 1931. Il est arrivé avec sa jeune femme de 18 ans. Il a exercé la médecine. Mais dès que les Allemands ont envahi la France, il s'est trouvé avec les pires difficultés. Il s'est trouvé avec de grandes difficultés parce que si Jean Moulin lui a confié un secteur extrêmement grand, les Allemands, très rapidement, vont l'empêcher d'exercer son métier. En juillet 1940, la nationalité française lui est retirée. Ensuite, en application de la loi du 16 août 1940, signée du maréchal Pétain, il est interdit d'exercer parce qu'il n'est pas de nationalité française, puisqu'on vient de lui enlever. Donc à ce moment-là, Arroux n'a plus de médecin. Cependant, il va continuer à intervenir. Et il va être bien sûr dénoncé. Le 5 janvier 1941, à Châtillon, il intervient pour examiner un bébé de 16 mois qui a été maltraité par son père, où il vit cet enfant sans nourriture et sans vêtements. Hélas, on va aller le dénoncer à la préfecture. Alors à ce moment-là, on va l'interdire de résidence en Eure-et-Loir et on va l'interner à Châteaubriant. Mais le problème, c'est qu'il a deux enfants. Il a deux enfants qui ont à l'époque 8 ans et une petite fille qui va naître. Donc nous allons avoir à Arroux, M. Vesbuche qui est, on peut dire, expatrié un peu, il est en prison, il est à Châteaubriant, Madame Vesbuche, évidemment, et ses deux jeunes enfants. C'est à ce moment-là que le calvaire, un petit peu, pour cette famille, va commencer. Parce que si le papa est en prison, on va évidemment se retourner contre la maman et contre les enfants. Au moment de la rafle du Veldiv, qui en, à ce moment-là, quelques un mois avant, on va commencer à regarder dans tous les départements ce qui se passe. On va regarder et localiser les familles juives. Et un des collaborateurs d'Eichmann, qui est de Necker à Paris, va se charger de demander à tous les préfets de dresser un état de tous les juifs qui séjournent dans leur département. Et il est certain que il va commencer à lancer avant la rafle du Vildiv, dans les départements, il va commencer des rafles. Ce qui ne va pas toujours plaire à la population. Mais dans d'autres départements, il est bien certain, et c'est le cas en Eure-et-Loir, le préfet va écrire « Les mesures prises contre les Juifs sont dans l'ensemble approuvées. La majorité rend les Juifs responsables pour une grande part de nos malheurs et estime juste et opportune les mesures de regroupement prises contre eux. Certains ne manifestent d'ailleurs leur opposition que parce qu'ils voient dans ces mesures les ordres des autorités d'occupation. Ce n'est pas une preuve de sympathie en faveur des Juifs, mais plutôt une manifestation de xénophobie, signé le préfet d'Eure-et-Loir. Par contre, le préfet du Loir-et-Cher, lui, est plus réticent. Il va écrire notamment « Les arrestations de Juifs qui ont lieu dans toute la zone occupée, plus particulièrement à Paris, soulèvent la réprobation et l'indignation générale. Certes, les Juifs ne bénéficient d'aucune réelle sympathie, mais les procédés employés à leur égard sont jugés inhumains et inacceptables. Ils ont provoqué, indiscutablement, une nouvelle vague de haine profonde contre l'occupant, contre laquelle il s'avère difficile de lutter. Évidemment, ce préfet sera sanctionné pour ce genre de propos. Et pendant ce temps, évidemment, à Arroux, Madame Wesbusch va, dans un premier temps, être interpellée, puis relâchée. Lors de la rafle du 25 juin dans la région de Châteaudun, Madame Wesbusch va être relâchée. On ne sait pas trop pourquoi, mais en fin de compte, Dönecker avait donné l'ordre de compléter un convoi qui devait partir de Beaulne-la-Rolande-Pithiviers, un convoi de juge, le convoi numéro 5, de le compléter parce qu'il n'était pas de 1000. Et Dönecker, qui était un homme extrêmement discipliné, il voulait des convois de 1000. Il n'était pas de 1000. Donc on a organisé une rafle, notamment en Orléanais et en Pays du Noix. Et Madame Wesbusch, à ce moment-là, a été interpellée.
Nous allons maintenant faire une pause musicale. Nous allons maintenant poursuivre l'entretien.
Oui, alors, Madame Wesbusch, qui n'a pas été arrêté le 25 juin, sera arrêté le 10 juillet 1942 à 10h40. Le rapport de gendarmerie précise justement qu'elle a été arrêtée avec la femme Koutman de Courtalin. Les enfants de la femme Vesbuche, qui ont 8 ans et 1 an et demi, ont été laissés en liberté. Et la gendarmerie, le gendarme, a rajouté à la main sur le procès-verbal « Téléphonez au maire pour les enfants, ceux-ci sont cachés chez des amis. » Le gendarme écrit ça à la main. Donc il prouve que la gendarmerie n'était pas toujours complice des forces d'occupation. Madame Vesbuche est donc internée à Pithiviers. Elle va quitter le camp de Pithiviers par le convoi numéro 6, où elle arrivera à Auschwitz le 19 juillet. Et serait morte du typhus à 29 ans au camp de Birkenau à la fin du mois de septembre. Les deux petites Vesbuche, Liliane et Marie-Vonne, ont été confiées à M. et Mme Renvoisé le 13 juillet 1942. Mais hélas, le mercredi 23 février 1944, à 7h du matin, deux hommes frappent à la porte des parents adoptifs qui hébergent Liliane et Marie-Vonne. Ils arrêtent les deux fillettes de 10 ans et 3 ans et demi, les mettent dans un camion qui se dirige vers la prison de Chartres, puis vers Drancy. Elles font partie du convoi 69 qui partira de Paris-Bobigny, composé de 1501 déportés, dont 812 hommes et 689 femmes. Il y a parmi eux 178 enfants de moins de 18 ans. On retrouvera 20 survivants en 1945. Les deux fillettes mourront dans la chambre à gaz le 12 mars 1944. Et ayant une pensée pour elles, je citerai Malherbe, elles ont vécu ce que vivent les roses, l'espace d'un instant. C'était les enfants Vesbuche. Et dans le même temps, à Saint-Denis-les-Ponts, il va y avoir également un drame. Parce que après la rafle du Veldiv, Madame Ribac est venue se cacher à Saint-Denis-les-Ponts. Et Madame Ribac est venue avec son fils Simon et un cousin de Simon, qui sera célèbre par la suite, puisqu'il s'agit de Samy Fray. Ses enfants vont être cachés, donc, au château, on peut dire, de Saint-Denis-les-Ponts. Hélas, l'instituteur qui est en poste, M. Marie Picroën, va avoir un jour la visite médicale des enfants. Et il y a dans son cours Simon et Samy Fray. Et la doctoresse, évidemment, les auscultant, s'apercevant qu'ils sont circonscrits, va dire « ce sont des enfants juifs ». Elle va les dénoncer, cette doctoresse. Et immédiatement, M. Picroën va alerter Mme Ribac qu'il faut qu'il se sauve, parce que le danger est grand. Effectivement, cette doctoresse va aller à la Felle Gendarmerie, qui est à Châteaudun, rue de Blois, c'est-à-dire la rue André Gillet maintenant, où elle va dénoncer ses deux enfants. Madame Ribac va chercher à s'enfuir. M. Picroën va prendre contact avec M. Alexandre Coursimo, qui est fermier donc à Champicard, sur la commune de Châtillon, pour qu'il vienne chercher cette famille. Malheureusement, il va être retardé et il va être obligé, M. Picroën, de cacher Mme Ribac et ses enfants dans un fossé. Il va pouvoir, à ce moment-là, les recueillir, M. Coursimo, il va les prendre chez lui et il va les sauver. Le petit Samy Fray, lui, va, avec son oncle, quitter la zone occupée pour passer en zone libre. Et ses enfants vont, jusqu'à la fin de la guerre, vivre à la ferme, cachés. Donc, Mme Ribac, plus son fils Simon. Ils vont pouvoir vivre sans inquiétude. Donc ça, c'est un exemple de Français qui ont caché, avec la complicité un petit peu de voisins qui n'ont pas voulu vendre ses enfants. À l'inverse, certainement, de ce qui s'était passé à Roux, parce que à Roux, c'est une dénonciation. Hélas, on a envoyé à la chambre à gaz une fillette de 3 ans et une autre de 11 ans. Et ce ne sont pas des cas isolés. Nous avons la même chose à Clouat, où la famille Illig, qui a pignon sur rue. Ils sont clouasiens par le père, donc le père de Paul Illig et la maman de Paul Illig, qui habitent Clouat depuis les années 1915. Ils habitent donc rue Saint-Georges à Clouat, et Paul Illig, qui est né à Paris, va venir s'installer à Clouat. C'est un monsieur qui est, alors je disais moi à l'époque, c'est un brocanteur. Et un clouasien à l'époque me dit, disons plutôt que c'était un brocanteur de haut de gamme, c'était un antiquaire. Et en même temps, ce monsieur était devenu président de la Clouasienne, il avait un rôle important dans la cité, et chacun disait, avec le, on ne sait pas le charisme à l'époque, on disait avec la dimension qu'il a, il pourrait peut-être devenir le futur maire. Mais en 1942, lors de la rafle du 25 juin, il va être arrêté avec toute sa famille. Donc, dans cette famille, il y a Paul, il y a Adèle, son épouse, Henri, son garçon, qui a 17 ans, et Jacqueline, 16 ans, qui, ce jour-là, est au collège à Châteaudun. Le collège à Châteaudun n'était pas Émile Zola, il était donc...
Rue Touffert.
Rue Touffert. Et donc Jacqueline est là. Et d'ailleurs, ce qui est extraordinaire, c'est qu'elle est au collège, à l'école, avec un des fils de M. Marie Picroën. Elle est au collège. Elle est également au collège avec la fille d'un des gendarmes de Clouat, avec M. Jubaud, la fille de M. Jubaud, qui va prévenir Paul Illig en lui disant « Attention, il est en train de se passer des choses, il serait bien que vous partiez ». Et Paul Illig dit, mais attendez, moi je suis français, je suis né à Paris en 1900, mes enfants sont nés en France, donc que voulez-vous qu'on me fasse? Je ne fais de mal à personne, qui voulez-vous qu'il me fasse du mal? Et les Allemands vont venir à Clouat, ils vont arrêter Paul, Adèle et Henri, qui a à peine 17 ans, qui était à l'école à Clouat, dans la même classe que... l'ancien pharmacien qui était André Breton, ils étaient en classe ensemble. Okay. Donc c'était une famille vraiment intégrée dans la cité. Ils vont être arrêtés. Paul Illig, ce jour-là, est chez le coiffeur, chez M. Noulin. Et on va le prévenir que les Allemands sont chez lui. Il va se précipiter et on va le conduire à la gendarmerie de Clouat avec son épouse et son fils. Son fils Henri va chercher à s'enfuir dans la ruelle, qui est la petite rue de Brou à Clouat, mais les Allemands vont le rattraper. Okay. Madame Illig va demander à Madame Jubaud d'aller chercher de l'argent de son domicile parce que les Allemands lui disent qu'ils partent en voyage. Et tout le monde, d'ailleurs, dans la population de Clouat, lorsqu'ils sont partis, croyait qu'ils allaient faire les moissons en Ukraine ou en Pologne. Ils n'imaginaient pas qu'il y avait des camps d'extermination. Ils ne pouvaient pas imaginer un seul instant qu'ils allaient être conduits à Pithiviers et puis ensuite emmenés vers Auschwitz. On n'imaginait pas du tout cela à cette époque. Donc cette famille va être conduite en camion à Orléans et il y aura également un quatrième juif qui sera arrêté à Clouat à ce moment-là. C'est-à-dire, il sera arrêté Nathan Starkman, qui est un couturier de la rue Marbeuf de Paris, qui s'est caché à Clouat. Et il s'est caché à Clouat dans la maison du maire. Le maire l'a caché. Mais ce maire est un patriote, puisqu'en 1941, le régime de Vichy va le relever de ses fonctions. Il va le relever de ses fonctions parce qu'il ne manifeste pas beaucoup de zèle pour appliquer les consignes de Vichy. Effectivement. Et ce monsieur Gauthier, qui est maire de Clouat, est extrêmement intelligent. Il va fournir un atelier de travail à M. Starkman au rez-de-chaussée d'une maison où, à l'étage, logent deux officiers allemands. C'est une belle couverture. Malheureusement, ce M. Starkman va être arrêté. Par contre, son fils ne sera pas arrêté parce que sa femme est allemande. Elle travaille à la commandantur de Châteaudun et elle parle parfaitement allemand. Et au moment où les Allemands arrivent, elle s'exprime avec eux, dans la langue de Goethe, bien sûr, et va leur expliquer, et le fils va rester. Donc nous aurons l'arrestation en quatre personnes. Et Paul Illig, qui est arrêté, dit « Mais moi, je vais partir, vous m'emmenez, etc. Mais je voudrais récupérer, aller chercher ma fille qui est au collège à Châteaudun. » Et l'officier allemand qui commande le détachement lui dit « Monsieur, j'ai des consignes, j'ai mon compte. Et pour moi, j'applique les consignes. » Et ils ne sont pas allés chercher Jacqueline Illig, qui a vécu jusqu'à ces dernières années.
Eh bien, avant de terminer l'émission, nous allons faire un second temps musical. Voilà, nous allons reprendre l'émission.
Alors, ces enfants, évidemment, tant Henri Illig, qui a donc disparu à moins de 17 ans, a évidemment créé un traumatisme important dans la population de Clouat, parce qu'il avait été élevé avec ses petits camarades de classe, et lorsqu'ils l'ont vu partir, il y avait donc un des témoins oculaires de l'époque qui s'appelait M. Paul Viau, qui était avec son frère, avec Renaud. Et à l'époque, les Allemands n'étaient pas très, très bien perçus. Et Renaud Viau voulait aller casser la figure, il avait 20 ans, il voulait aller casser la figure à l'officier allemand. Et son frère lui a dit « Mais ce genre de choses, il ne faut pas le faire, ils vont t'embarquer avec ». Effectivement, quand ils ont donc fermé le camion et se dirigé vers Orléans, ils avaient attaché les mains dans le dos tous les gens qui étaient arrêtés. Et lorsqu'ils ont traversé la grande rue à Clouat, il y avait un ami de Paul Illig et qui criait « Mais Paul, Paul, t'en vas pas !» C'était le grenier de Clouat et il a couru après le camion parce que il ne comprenait pas qu'on puisse emmener son ami comme ça, attaché comme un malfaiteur, alors que c'était un homme de bien. Donc, et de voir la femme de Paul Illig et Henri également, donc, attachés à côté, on attachait les enfants pour pas qu'ils s'enfuient. C'était quelque chose de bouleversant. Et Omer Jubeau, qui était le gendarme qui l'avait prévenu, qui a retenu la famille Ealing quelques instants, qu'ils a reçus au moment où donc ils étaient arrêtés. La gendarmerie à l'époque était route de Vendôme à Cloire, qui est maintenant la rue du docteur Tessier. Ils étaient donc pour quelques instants encore, on peut dire, en liberté, avec des gens qui pouvaient les aider. Mais c'était vraiment les derniers instants. La famille Jubeau a vécu les derniers instants avec eux à Cloire. Et Omer Jubeau sera ensuite la figure numéro un de la résistance dans le sud du département. Et on a souvent dit, notamment au moment de la rafle du Veldiv, que la police française avait collaboré à l'arrestation de juifs. Mais parmi ces gens de la police, il y en a qui ont aidé. Et tout à l'heure, je parlais de la famille Rybach, de Simon Rybach, de Samy Fray. S'ils ont réussi à ne pas être dans la rafle du Veldib, c'est qu'ils ont pu s'échapper de la rafle du Veldib grâce à la complicité, justement, de certains policiers français qui jugent absolument scandaleux ce qu'on voulait subir à ces gens-là. Parce qu'au Veldiv, il faut se rappeler qu'il y a eu 13 000 personnes d'arrêtées au Veldiv. Et sur les 13 000 personnes, il y a eu 6 000 femmes, 3 000 hommes et 4 000 enfants. Des enfants de moins de 12 ans qui étaient donc au Veldiv et qui sont pour la plupart tous morts en déportation. Donc le pays du Noir a payé son tribut à cette affaire parce que c'est allé jusqu'à Chapelle-en-Royale. On a eu d'autres enfants donc, qui ont été arrêtés à Chapelle-en-Royale. Il y a donc Marie-Vonne et Liliane qu'on a vu Vesbuche, Alain, 2 ans, et Diane Bettel, 4 ans, de la Croix du Perche. Il y a Freeman Charles, 7 ans, Kaufmann Jean, 3 ans, Sturnik Maurice, 10 ans, et Spinalik David, 3 ans de Yèvre. On voit très bien que ces enfants-là n'avaient rien fait. Et sur un ordre, non pas d'un Allemand, d'un nazi, parce que tous les Allemands que nous avions en Pays du Noir n'étaient pas des nazis. Il y avait, par exemple, un sous-officier à la base de Châteaudun, un Allemand, qui un jour, par exemple, râpait son pantalon avec son couteau. Et un Français lui demandait pourquoi il faisait ça. Il disait, quand Hitler n'aura plus de pantalon, il sera bien obligé d'arrêter la guerre. Donc il y avait des Allemands qui n'étaient pas nazis. C'était une minorité, les nazis. Mais cette minorité a exterminé des enfants sans aucun discernement. Et c'est le préfet d'Eure-et-Loire qui avait adressé une note à M. Brinon, ambassadeur de France, délégué général du gouvernement dans les territoires occupés, pour lui signaler que l'arrestation des enfants avait soulevé des manifestations d'hostilité à l'égard des autorités allemandes. La population était scandalisée.
Merci, merci Jean-Claude pour votre témoignage. D'ailleurs, vous avez beaucoup travaillé cette région puisque vous avez publié un livre intitulé sur la région de Cloire, les heures noires, 1939-1944. Thank you.